Bien, merci. Je vous dis pas bonjour puisqu'on s'est déjà vu et que j'ai entendu beaucoup de choses. Donc l'exercice que nous avons fait de manière en aveugle, séparément, consistait à essayer de proposer une grille de lecture avec, à mon avis, deux points de vue simultanés. Un qui consiste à essayer de montrer, en tout cas de donner à voir comment, à partir de quelques hypothèses théoriques, on peut analyser une séquence. Et deux, d'essayer de rentrer dans la séquence telle qu'elle est pilotée par cette collègue, sans se demander si elle a tort ou si elle a raison, c'est l'adage de la recherche, sans rire et sans pleurer, on essaie de comprendre les choses, mais avec l'idée, qui est peut-être un a priori, selon laquelle, apparemment, il y a là une séquence qui tient. Et d'essayer de proposer des hypothèses sur pourquoi est-ce que ça tient. Ce qui n'est pas exclusif du fait que ça pourrait tenir dans d'autres logiques et tenir d'autres manières. Je crois qu'il y a plusieurs manières de faire tenir les classes et que, pour le moins, ce qui est intéressant, c'est quand il y a une cohérence à l'intérieur de la façon de faire tenir, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on voit bien chez les jeunes enseignants la question de cohérence qui se pose avec l'envie qu'il y a alors souvent d'emprunter à plusieurs modèles et de pas trop savoir comment les choses fonctionnent. Alors on peut critiquer celui-ci. J'ai entendu dans l'atelier où j'étais, on a pu parler de faux constructivisme, de directivisme, etc., etc. Bon, est-ce que c'est le cas? Pour l'instant, j'en dirai rien, sauf sous la torture peut-être. Mais c'était pas trop mon propos. La première remarque, moi je suis un peu sociologue dans la vie. La première remarque que j'ai fait deux remarques quand j'ai commencé à voir la chose il y a maintenant un certain temps. La première, Patrick l'a faite, il n'y a que des élèves assez fortement colorés, ce qui n'est pas à l'image des têtes blondes qu'on imagine lorsqu'on parle des élèves français. Et la deuxième, c'est ils sont superbement coiffés, habillés, nickel. On sent le travail des mamans derrière. Voilà, je commence déjà à réfléchir en termes d'arrière-plan. Il y a une construction de la part des familles qui est très 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 puissante, me semble-t-il. Qu'on voit aussi dans l'attachement quand les gamins aiment bien écrire. Ça a été soulevé. Ça veut peut-être pas dire qu'ils maîtrisent l'écrit, mais en tout cas, il y a un attachement à la graphie. Et qui est d'ailleurs déjà sans doute la marque de la façon dont les catégories populaires ont rapport à l'école. Vous savez, on dit parfois, quand les gamins milieux populaires rentrent de l'école, les parents leur disent « Est-ce que tu as été sage ?» et les nôtres, on leur dit « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ?» Alors, il y a deux manières un peu différentes de regarder le rapport à l'école. Et je trouve que là, lorsqu'en particulier, on parle de la démission des familles de milieux populaires, en particulier immigrés, sans aller bien dans les détails, c'est pas le but de mon propos, mais on voit bien que c'est pas là que ça se joue. Les malentendus se jouent sans doute ailleurs. Mais l'allégeance à l'école, la volonté d'entrer dans le moule et de bien faire est assez manifeste dès les premières images. Donc, il me semble qu'il y a une forme de fluidité. Le mot, d'ailleurs, a été utilisé dans l'atelier dans lequel j'étais. En mesure où la séquence se déroule d'une manière qui, semble-t-il, a été prévue et de la manière dont ça a été prévu. La grille d'analyse que j'aurais, c'est que méfions-nous de cette fluidité apparente. Cette fluidité me semble reposer sur des construits extrêmement forts, routinisés, armaturés, construits collectivement, comme on l'apprend ensuite dans l'entretien avec l'enseignant. Mais c'est vrai que même si on n'a pas eu l'explication de texte à la fin, qui quand même aide aussi à faire des hypothèses, on voit bien que les choses sont très fortement construites. Et j'essaie, avec mon collègue didacticien Gérard Sansevi, qui est pas là, on essaie de travailler ça en termes d'arrière-plan des apprentissages. Et voilà, je crois que cette séance-là, elle peut précisément se déchiffrer, en tout cas d'une certaine façon, en termes d'aller chercher les arrière-plans. Je crois aussi, d'un point de vue plus sociologique, qu'on peut regarder à la fois les contextes de l'action, mais aussi les relations au sein de l'action, d'où l'idée d'une double analyse contextuelle et relationnelle, et enfin d'essayer de comprendre, à la lumière de ça, comment cette enseignante et ce qu'on devine ou qu'on ne voit pas à l'écran réussissent à obtenir cette construction, donc les soutiens externes et internes. Le premier point, alors, je ne suis pas didacticien, mais il me semble que la didactique a un mot à dire dans cette affaire-là. Ce qui permet de comprendre, je crois, pourquoi les situations tiennent, c'est, comme le dit Gérard Sansevi, parce qu'il y a des grammaires des pratiques. Il me semble que cette Enseignante est assez illustrative de la grammaire. Alors je vous lis la citation de Saint-Séyur, puis c'est la sienne. Cadre de référence de la communication et de l'action, fondamentalement nécessaire à ceux qui communiquent et agissent pour assurer une compréhension mutuelle et une action raisonnablement concertée. Et l'exemple qui suit, qui n'est pas du tout emprunté à la didactique, mais à la vente des poissons, ce qui est déjà un indice vers les poissons rouges de la faim, Sansevi dit ceci. Sur un port du sud, une poissonnière crie « Regarde ma chérie, il est beau mon poisson ». Celle qui l'entend, si elle est dans la coutume, ne considérera pas ce cri comme l'expression d'une préférence esthétique, le poisson est beau, ni comme un attachement de la poissonnière à son poisson, mon poisson, quoi qu'il y ait aussi de cela, ni comme une manifestation d'affection de la poissonnière à sa cliente, ma chérie. Bien qu'il puisse y avoir aussi de cela, elle prendra ce cri comme une invitation à l'achat. La grammaire de l'action ici est bien celle de quelqu'un qui produit un signe, regarde ma chérie, il est beau mon poisson, qui doit attirer l'attention de l'acheteur. Alors, quel rapport entre la vente à la criée au poisson et la séance sur les déterminants et les noms? Évidemment, il n'y en a aucun, sauf qu'il y en a un. C'est que s'il n'y avait pas des cadres déjà prêts à accueillir ce type de discours, à le décrypter de manière convenable, le nombre de malentendus pourrait être tout à fait important. Et ce qui est valable dans la vie quotidienne est a fortiori valable dans le cadre de la classe. Donc ça pour dire qu'il y a des activités, je dirais, de caractère naturel qui font que les humains s'entendent sur des grammaires dont on ne voit pas pourquoi elles n'existeraient pas à l'école et dont je crois qu'il est intéressant d'essayer de les décrypter. Donc voilà, on quitte le monde des poissons morts pour des poissons plus vivants qu'on verra. Alors l'analyse sociologique, évidemment, elle ne veut pas être de reste, elle est au didacticien le seul apanage du décryptage des situations. Classiquement, hein, on ne va pas s'étendre là-dessus parce que ça serait trop long, mais les sociologues nous ont appris à faire des analyses socio-géographiques ou socio-démographiques des situations. On ne comprendrait pas qu'il n'y ait que des élèves de couleur dans cette classe si on ne savait pas qu'il y a une géographie inégalitaire de l'enseignement en France, quoi qu'on proclame la République. Il y a des inégalités territoriales, des inégalités d'établissement, et bien évidemment, me semble-t-il, nous ne pouvons pas lire cette séquence-là du point de vue d'une pédagogie éthérée éternelle qui ne prendrait pas en compte les contraintes de situation qui existent. Néanmoins, ces contraintes globales qui se posent à beaucoup d'établissements de la périphérie parisienne, mais aussi lilloise, marseillaise et un peu ailleurs, ces contraintes-là ne sont jamais explicatives de tout, et on peut se livrer à des analyses relationnelles, c'est-à-dire de ce qui se passe non seulement concernant ce que l'école importe des milieux familiaux, mais de ce qu'elle rajoute elle-même éventuellement dans les malentendus possibles. Vous savez que, je dirais malheureusement, je crois qu'on a le droit de le dire, la France, si on réfère à un certain nombre d'enquêtes internationales et d'enquêtes tout court, est un des pays dans lesquels l'école rajoute des inégalités aux inégalités sociales. Hein. Elle est fabricatrice, non seulement elle enregistre, bien évidemment, de toute la thématique de la reproduction des grands travaux sociologiques des années 60, mais des approches plus relationnelles nous montrent qu'entre l'école et la société, il se passe un certain nombre de choses complexes qui font que, aux inégalités enregistrées au départ, s'en rajoutent d'autres, que les inégalités sociales se transforment en inégalités scolaires, qui en rajoutent en termes d'inégalités sociales. C'est un propos un peu pessimiste, mais qui, malheureusement, n'a pas été remplacé par d'autres étayés jusqu'à présent. Donc, le travail sur les relations en situation paraît au moins aussi important que celui de l'analyse de qu'est-ce qui fait que les familles n'ont pas exactement les mêmes capitaux pour employer les vocables, les concepts que nous avons appris de Bourdieu, Passeron et un certain nombre d'autres. Alors, le contexte ici, nous en avons, je crois, une explicitation de la part de l'enseignante, dont on voit bien que l'analyse qu'elle fait de la situation ici et maintenant participe d'une analyse plus globale, qui est une analyse du rôle de l'écrit dans l'école. Qu'est-ce qu'elle a lu, je n'en sais rien, je la connais pas, mais on voit bien que les idées qui ont pu être développées par des gens comme Bernard Lahire et d'autres, hein, sur le rôle tout à fait important de l'écrit dans le curriculum français, ce qui n'est pas le même cas dans tous les curriculums, etc., que ce rôle est central, voilà, c'est le rôle du scriptural, comme a pu le dire Lahire dans des termes un peu compliqués, mais qui sont néanmoins éclairants. Je crois qu'il me semble que dans cette phrase-là, l'écrit, c'est dans la famille quelque chose d'angoissant, Pour beaucoup d'enfants et de parents, l'écrit, c'est les factures, c'est les problèmes, c'est une gêne des tout-petits. Leur donner des outils orthographiques d'LCP, ça dédramatise. Donc là, il y a manifestement un projet scolaire qui est en même temps un projet d'établissement, qui est en même temps sans doute un projet de circonscription, et qui participe d'une interprétation globale des contextes de l'action, qui veut bien dire que la classe que nous voyons là, elle s'est pas inventée le jour où la caméra a décidé de prendre les images, mais qui a des arrière-plans assez considérables sur les priorités, qu'on peut contester ou pas, mais en tout cas, qui semblent être au cœur du travail de cette enseignante et de ses enseignants. Analyse relationnelle, alors on descend à un niveau plus précis, il y a l'école brossolette des Mureaux, il y a une responsabilité de l'école in situ, ça c'est à l'époque où on faisait encore du latin, bientôt ce sera fini comme vous le savez, il y a la volonté de maintenir dans la classe des enfants qui sont de niveau hétérogène, ce qui veut dire qu'on a renoncé à une possibilité d'externaliser la difficulté, comme on peut la connaître, c'est un autre choix. Donc nous voyons là qu'il y a, de mon point de vue, des choix pédagogiques tout à fait assumés, de dire on les garde tous. Hein, et on essaie, à l'intérieur, malgré la diversité et la disparité, de viser un niveau qu'ils soient tous capables de produire de l'écrit, et de l'écrit correct. Voilà, c'est au fond le dernier point qui redonde avec ça. Il y a des choses qui relèvent de la remédiation interne. Comme elle dit, à un moment donné, certains enfants relèvent d'un soin approprié que nous ne sommes pas capables de dispenser, et d'autres qui relèvent de traitements et d'appui que nous devons pouvoir donner à l'intérieur. Et il semble qu'un des aspects importants de leur analyse relationnelle soit justement de discriminer ce qui dépend d'elle et ce qui ne dépend pas d'elle, comme disaient les stoïciens à l'époque. Mais il n'y avait pas de problème de public hétérogène. Alors, comment construit-on ces arrière-plans ? Elles ne le disent pas, évidemment, explicitement. Elle fait des références pédagogiques. André Ouzoulias, Célestin Freinet. Dans l'atelier où j'étais, quelqu'un a expliqué que la méthode qui consistait à se servir de mots comme outils conservés, stockés sur les murs, sur un ensemble de dispositifs, faisait partie de cette méthode. Hein. Il faut utiliser des mots qu'on possède bien. Alors ça peut paraître brimer une forme de créativité et d'effervescence de la part des élèves, mais c'est un parti pris qui consiste à... Voilà, utiliser certains types de techniques. On nous dit aussi que c'est des classes qui sont formées, enfin qui sont structurées selon un idéal assez coopératif. La séance ne le montre pas trop, comme ça a été remarqué, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. En tout cas, il y a des référents pédagogiques qui sont donnés et qui, bien évidemment, transcendent hein, la classe et la situation et relèvent des soutiens externes. Il y en a sans doute d'autres. Hein. Moi, j'ai pointé ces deux-ci. Non pas parce qu'on les voit, on les devine, mais le fait qu'elle les explicite conforte dans l'idée de ce construit antérieur et extérieur. Autre soutien externe, qui ne relève pas cette fois de modèle pédagogique, mais d'une analyse d'un collectif, c'est le fait de vouloir travailler sur le cycle. C'est pas si évident que ça. Vous savez comme moi que quand les programmes ont essayé d'instaurer des cycles, ça n'a pas forcément marché. Les nouveaux programmes qui essaient de faire la même chose ne seront pas forcément promis à plus de succès, surtout quand le cycle, c'est pas le 2, le numéro 3 enjambe la 6e et supposerait une coordination de l'équipe tout au long du cycle, étant entendu que les années ne seront plus que des étapes d'évaluation intermédiaire, mais que la véritable évaluation est celle de fin de cycle et de fin du socle. Donc il y a là quelque chose à quoi, semble-t-il, cette enseignante est plus prête que beaucoup d'autres. On construit au long du cycle, on prend au sérieux l'idée du cycle, avec, on suppose derrière, l'idée de maturation différente des enfants au long du cycle, de possibilité de les rattraper, de pas les laisser tomber, de pas les faire passer au bénéfice de l'âge, etc., etc. Co-intervention dans la classe qui paraît elle-même intégrée dans le projet. Dans cette séquence-là, la co-intervention, on la voit pas trop. On la devine parce qu'elle est huilée et qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'interférence entre les différents îlots. On devine au jeu d'étiquettes que tout le monde ne travaille pas sur le même matériau et que c'est pas un hasard que ces choses-là ont été réglées auparavant. Mais nous n'en savons guère plus. Autre décision qui relève de ce que j'appelle les soutiens externes, c'est que c'est le ou la même enseignant, enseignante, du CP au CE1, donc ce qui va bien avec l'idée du cycle, puisqu'on accompagne la classe, et qu'on pourrait imaginer que le relatif confort qu'on pourrait avoir toujours le même niveau, n'est pas pris en compte ici. On essaie véritablement de suivre la progression des élèves, ce qui paraît encore une fois un pari pédagogique. Dernièrement, mais c'est pas exhaustif du tout, hein, c'est ce que j'ai pu pointer, on nous dit qu'il y a des référents communs, dont une exigence sur la graphie. Moi, j'ai entendu ça en deux sens. La correction presque calligraphique de ce qui est produit, même si on passe outre le fait que des élèves tiennent de manière incorrecte l'outil scripteur, comme le disait le référentiel de compétences à la grande époque. L'intérêt semble être le résultat produit. On les embête pas sur le fait de savoir s'ils le tiennent en envers ou à l'endroit. Ça paraît être un choix pédagogique. Mais graphie aussi, correcte, au sens où il y a de la production d'écrit. Moi, pour avoir assisté à pas mal de séances, n'étant pas du tout enseignant du primaire à l'origine, mais dans l'enseignement primaire, j'ai vu beaucoup de stabilotage d'élèves, beaucoup moins de production écrite. J'ai l'impression qu'il y a là une volonté de faire écrire, et de faire écrire à la fois à partir de propositions d'élèves, même si c'est très cadré par le fait qu'il y a à décrire une image, mais je n'ai pas entendu de critiques sur le fait qu'on a le droit de parler du fait qu'il y a des chaises et pas forcément des événements plus riches que l'on pourrait décrire, mais à la fois une grande vigilance sur le fait qu'on est dans la correction orthographique et grammaticale. Voilà, ça c'est un exemple, hein, m'a-t-il semblé. On regarde tous les cahiers, il y a vraiment une... Moi je ne cahier pas comme ça, hein, une correction calligraphique, hein, on voit quelques fautes d'orthographe, mais on voit que les enfants sont pour le moins appliqués. Alors, les soutiens internes, ils sont évidemment sans doute davantage relevants du... Je ne sais pas jusqu'où va le degré de calibrage du collectif. Sans doute que des notions développées par des gens comme Yves Clos, la clinique de l'activité, est-ce qu'on en repris des collègues lorsqu'ils s'intéressent à l'ergonomie du travail enseignant, la différence qu'ils font entre le genre professionnel et le style qui est plus propre aux personnes, l'un étant évidemment entretenant une étroite dialectique avec l'autre, y a-t-il des choses qui relèvent en propre de cette enseignante et que font les autres qui travaillent sur le même modèle? Nous ne le savons pas. Néanmoins, il y a des gestes professionnels. Dans les débats auxquels j'assistais dans l'atelier dans lequel j'étais, il y a eu des références à Dominique Bucheton et à pilotage, étayage, cadrage, etc. Je crois qu'il y a de cela. On peut l'analyser dans ces termes-là. Il y a une posture de cette enseignante qui ne se réduit pas exactement au geste professionnel. Je crois un certain nombre de dispositifs que j'ai essayé de lister puisque une de mes convictions, une de convictions de gens qui réfléchissent un peu de la même manière, c'est que sans dispositif, les situations ne tiennent pas. Mais de la même manière, il ne suffit pas d'avoir des dispositifs pour que les situations tiennent. Hein, il faut être capable aussi de les mobiliser. Alors, dans les gestes professionnels, il y a la volonté de donner des consignes transparentes. Mais je crois que ça va au-delà. Les jeunes enseignants... est-ce un effet de la formation, sont assez obsédés par la transparence des consignes. Il faut donner des consignes claires. Alors, je ne crois pas en effet qu'il faille donner des consignes confuses, mais le fait de donner des consignes claires ne suffit pas toujours. La question est de savoir pour qui elles sont claires. Voilà. Après une vie d'enseignant à peu près accomplie, vous avez donné des tas de consignes, vous êtes désolé de voir que pourtant elles étaient très claires et les gens ont fait autre chose. Il y a un problème quelque part qui me fait penser qu'il y a toujours des présupposés des consignes. Les consignes s'adressent à un élève idéal qui est... L'enseignant tel que lui-même était reconstruit en élève idéal qu'il n'a pas forcément été mais qu'il essaie d'imaginer qu'il a été pour être adéquat à lui-même. Il me semble que là il y a un travail d'explicité et par exemple on leur dit on va décrire une image. Oui, mais décrire une image, c'est écrire à partir d'une image. Alors je trouve que c'est pas quelconque cette notion-là parce que le risque, c'est le risque de raconter l'image. les travaux de Bernard Lahire, hein, qui ont été, je crois, assez fondateurs en la matière, lorsqu'il s'intéresse en particulier aux écrits d'élèves de milieux populaires, nous montre comment il peut y avoir des effets de leurre lorsqu'on demande à ces élèves-là, pour qu'ils puissent écrire des choses sur lesquelles ils ont quelque chose à dire. On leur dit, par exemple, voilà, tu vas raconter tes dernières vacances, ou tu vas raconter des expériences agréables. Et les enfants, évidemment, ils ont tous eu des vacances, même s'ils sont restés chez eux, ou s'ils ont fait un jour avec le secours populaire à la mer et qu'il faisait beau, ça arrive. Ils vont raconter des choses sur un mode qui n'est pas le mode de la rédaction tel qu'il est attendu par les enseignants. Et donc Lahire enregistre les attendus des enseignants, qui est qu'il faut qu'il y ait un discours dans lequel il y ait une introduction, il y a un développement avec un plan, il y a une conclusion qui tire une morale des histoires, il y a une concordance des temps, il y a toute une mise en forme qui appartient à un exercice scolaire particulier qui est la rédaction, qui est l'écrit scolaire. Et ces enfants vont écrire comme ils raconteraient leurs copains, avec une succession d'images, de sous-entendus, de situations singulières qui ne signifient que pour eux et leurs proches, qui sont à peu près incompréhensibles pour un lecteur extérieur. Il n'y a pas de destinataire universel, il n'y a pas de concordance des temps, c'est les flashs, voilà. Donc, ils ont, pour valider l'exercice, ils ont raconté, mais ils n'ont pas écrit avec une image, ce qui est deux choses tout à fait différentes. Et, me semble-t-il, c'est un peu ce malentendu que l'enseignante essaie de dissiper, en allant au-delà de la consigne et en anticipant ce qui pourrait en être fait. Aujourd'hui, on va écrire à partir d'une image, raconter ce qui se passe, décrire ce qu'il y a. Et il y a tout un moment, lorsqu'elle est devant le groupe, où elle essaie de dire en quoi ça va consister. Alors, il y a beaucoup aussi de choses que les, si j'ai bien compris ce qu'ils veulent dire, que les didacticiens appellent de l'institutionnalisation. C'est que nous sommes dans une situation où chacun va décrire l'image à sa façon. Mais il y a des savoirs qui existent. Nous ne sommes absolument pas, je crois, dans une construction des savoirs qu'il faudrait redécouvrir soi-même. Les savoirs sont présents. Alors, est-ce que ce sont des savoirs ? On pourrait débattre de ça. En tout cas, il y a les traces des savoirs sur le mur. Les élèves ne peuvent pas y échapper. Il y a des indications gestuelles. Ils sont encerclés par des savoirs qu'on a déjà rencontrés. On suppose qu'elles pensent que ce cadrage fort est important, et ça peut se discuter, mais il me semble important, en tout cas significatif, qu'il y a des exigences extérieures à la situation que j'ai surlignées, parce que c'est un capital commun, ce sont nos familles de mots, ce sont nos classes de mots, et ce sont des impersonnels, on utilisera, on n'oubliera pas d'accrocher, on va utiliser des verbes. Il y a vraiment une communauté, parce qu'il faut l'appeler communauté apprenante, dont on est membre, hein, et il y a cette volonté, je crois, de montrer qu'il y a une institution scolaire, hein, qui crée des obligations, mais en même temps des appropriations. Voilà. Recherche permanente de généricité, hein, si on lit les travaux, entre autres, de Stéphane Bonnery, on voit que les élèves issus de ces milieux sont sans arrêt dans des confusions entre le spécifique et le générique. Croient à chaque fois que ce sont des savoirs nouveaux, qu'il y a un empilage, que l'exercice qu'on fait aujourd'hui n'a aucun rapport avec celui qu'on fera demain, qu'on ne sait pas si la sèche est un vertébré parce qu'on croit qu'on a travaillé sur la grenouille et que c'était ça le vertébré, et que quand on demande un autre, on pense que c'est autre chose, et que les élèves qui ont su faire, c'est parce qu'on leur avait donné la solution, et que si les noirs de la classe se sont plantés et que les blancs ont su, c'est parce que la maîtresse fait du délit d'initié, etc. Donc il y a des constructions de la part des élèves, hein, qui peuvent être convaincus qu'on est toujours dans des cas particuliers, et que les fameuses leçons de géographie sur lesquelles Stéphane Bonnery réfléchit, on a fait un jour le Massif Central, mais là où la maîtresse croyait qu'on faisait de la cartographie, les élèves ou certains ont pu penser qu'on faisait le Massif Central, et le jour où on fera le Massif Armoricain, et ben c'est un tout autre exercice dont on a oublié à quoi servait une échelle, quels sont les codes, les couleurs, etc. Sans cesse recommencer. Donc là, il y a manifestement une volonté de faire du générique, de ramener des cas précis de difficultés issues du travail et des volontés des élèves vers des choses qui font partie, j'allais dire, du patrimoine de l'UNESCO. Hein. C'est le dans la classe qui est là-haut, hein, avec un cadrage. Hein. Ça a été remarqué dans l'atelier, gestuel, y compris jusqu'à prendre la main de l'élève, hein, une volonté de leur indiquer. Alors bon, après, on peut en penser ce qu'on veut, mais je crois qu'il y a une cohérence très très grande dans tout ça. Autre élément que l'on voit au passage, je renvoie au travail de Christine Caffio, qui travaille sur des styles d'enseignants différents à la maternelle, où elle montre que certains essaient de manière extrêmement différentielle par rapport à d'autres, d'en appeler à la réflexivité des élèves, dire voilà, tu fais ça, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, alors que d'autres sont plutôt dans le faire. Hein. Depuis toujours, vous utilisez des verbes, des adjectifs, sauf que maintenant, vous le savez. Il y a l'idée qu'il faut passer à la métacognition, d'une certaine façon, et de voir que la grammaire est une sorte de réservoir, hein, de matrice pour des choses qu'on sait faire de façon pragmatique, mais qu'il faut absolument arriver à les intégrer à un autre niveau plus générique par le biais de la réflexivité. Il me semble que ce qui caractérise cette enseignante aussi, c'est une tension permanente qu'on voit dans son visage, qu'on voit dans sa posture, entre quelque chose qui est de l'ordre de la bienveillance, du renforcement positif, en même temps, qui est de ne jamais les lâcher. Hein, et je trouve que cette phrase-là, voilà, si tu veux dire que c'est dans celle-là classe, comment on dit, comment tu dirais, on l'avait déjà mis ce déterminant, cette « tu vois, il est là-haut hein, ». Je pense que cette, si on fait une analyse un peu lexicale du texte, nous verrions sans cesse cette alternance. Voilà, double mouvement, hein, horizontal de proximité avec l'élève, mais en même temps vertical, hein, si on emploie les analyses un peu des sociolinguistes. Hein. Il y a un enchâssement des savoirs qui renvoie à l'histoire, y compris l'histoire de l'humanité, et puis il y a des situations hic et nunc, et il me semble que dans son geste, on est simultanément, hein, dans l'horizontal et le vertical, c'est véritablement incarné. Peu d'incidents, me semble-t-il, une prévention des incidents, et lorsque ça arrive, il me semble que ça n'a pas de suite. Il n'y a pas d'acharnement sur tel ou tel élève. À un moment donné, Bacar est en train apparemment de commencer à perturber. On le foudra du regard, hein, et on lui dit « tu tiens qu'on en, c'est fini » et on n'y revient pas. Hein. Il n'y a pas du tout de scénario qu'on peut voir chez les enseignants, surtout débutants. Un petit peu d'acharnement pour arriver à externaliser un peu sur quelques élèves perturbateurs des choses qui tiennent à la difficulté de la conduite de la séance. Appui sur le collectif, que l'on devine, là on ne le voit pas évidemment, mais au moment où, je ne sais plus si c'est Bobo qui a quelques difficultés à comprendre ce qu'est le 7, on demande à Amina, hein, qui répond et on reprend, oui, c'est le 7 qui doit dire c'est 7 pièces, 7 chambres, 7 chaises. Alors, après, en bonne sociologie de Bruno Latour, je crois que cette enseignante construit un réseau extrêmement contraignant, réseau d'humains et de non-humains. Hein, ça, c'est les termes de la sociologie latourienne. Hein, lorsque Bruno Latour étudie de manière plaisante la manière dont un centre d'exploration des océans a repeuplé la baie de Saint-Brieuc en coquille Saint-Jacques, qui était en train de mourir, ce qui était très triste, et surtout commercialement pas très intéressant. Ils ont construit tout un réseau avec des marins-pêcheurs, des biologistes, des autorités maritimes, les coquilles Saint-Jacques elles-mêmes, avec lesquelles on a négocié. Et ça fait partie du travail de Bruno Latour que de dire qu'on négocie aussi avec les... On a négocié pourquoi ? Parce qu'on leur avait mis des étuis en plastique dans lesquels elles devaient se repeupler. Elles ne supportaient pas le plastique. Donc on leur a mis du crin et elles se sont repeuplées. Donc il a fallu négocier les coquilles Saint-Jacques. Mais je crois que là aussi, il y a cette manière de comprendre que pour faire tenir des situations, il n'y a pas que les idées. Hein, ça passe vraiment par des supports matériels qui permettent aussi de déléguer au support. C'est ce que la délégation au dispositif, c'est le fait que si par exemple vous deviez renégocier toutes les heures les séquences de 55 minutes avec les élèves et avec les collègues, c'est infaisable. Donc on a négocié aux horloges, aux pendules, aux sirènes ou aux voix d'hôtesse d'Orly qui vous disent que la séance est terminée, on n'y revient plus. Il y a une délégation au dispositif qui tranche, mais on pourrait remonter un débat qui consistera à se demander quelle est la bonne durée de la séquence de cours. Or là, il y a beaucoup de dispositifs qui apparemment sont mobilisés pour éliminer les débats à l'infini qui pourraient créer, alors qui pourraient être pertinents à un moment donné, mais qui pourraient être créés des effets distracteurs.
Il y a... Une séquence, c'est 30 minutes.
Oui, mais nous y sommes. Hein, j'en suis à moins de 3. L'image comme support de la description. Les tableaux comme supports grammaticaux, là, ça va très vite. C'est juste des preuves, que j'essaie d'apporter. Les élèves sont pré-répartis à des tables. Chacun semble savoir à peu près ce qu'il a à faire. Il y a des distributeurs de cahiers jaunes. Peut-être qu'il y en a d'autres couleurs, mais là, on voit comment les choses sont absolument millimétrées. Et l'élève y va comme s'il distribuait les gratuits du métro. C'est son rôle. Une enseignante supplémentaire, on ne la voit pas, très peu, on devine, elle travaille, où il est. Quelqu'un a la chance d'avoir la tablette. Est-ce que c'est une récompense? Est-ce que c'est un jeu? On ne sait pas. Certains travaillent avec des étiquettes, donc autre élément qui ne prête même pas à débat. Il y a des routines qui sont rappelées, on a son cahier, on se met au travail, on prend une nouvelle page, on décrit l'image. Et il y a le poisson rouge, bien sûr, qui est, je crois, le cœur du dispositif. J'en ai terminé pour dire que, en guise de conclusion, évidemment, je crois qu'il y a ces deux visages de l'enseignante. On voit qu'elle est, je ne sais pas comment il faut dire, si elle est tendue, en tout cas concentrée sur la tâche, avec un front soucieux, mais elle est capable aussi d'être extrêmement épanouie quand elle parle du bonheur qu'elle a travaillé avec eux et de ce qui lui semble être le sentiment de réussite. Et en guise de conclusion, il me semble que les arrière-plans qu'il faudrait introduire là, mais qui soutient ceux qui soutiennent? Je crois qu'il y a là un sujet de réflexion qui n'est pas du tout abordé dans la séance, mais en termes de formation, en termes de soutien institutionnel, à mon avis, cette question vaut d'être posée, parce que c'est un peu ce qui permet aux équipes d'exister, de vivre dans la durée. Avec malheureusement ce spectacle toujours un peu désolant pour moi, de collectifs mobilisés qui y vont avec toute leur âme, comme disait Platon cette fois, pour cuistrer un peu, et qui au bout d'un moment s'épuisent parce que les équipes se défont, les gens ont leur mutation, les gens se fatiguent, on va devoir réinventer des choses dont vous êtes porteurs, qui ont été évoquées ce matin, et qui risquent de se perdre si elles ne sont pas capitalisées à un moment et véhiculées dans des dispositifs de formation. J'arrive à 30 minutes et j'ai respecté mon contrat. Merci.